Radio Okapi. Grande interview.
Grande interview reçoit pour vous aujourd'hui l'ambassadeur Barnabé Kikayabine Kiarubi, conseiller diplomatique de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila. Avec lui, nous allons parler du 32e sommet de l'Union africaine où le nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi, a été élu deuxième vice-président de cette organisation africaine. Nous aborderons aussi dans cette émission les questions liées à la diplomatie congolaise. Mais avant de commencer notre entretien, portrait de notre invité avec Michel Kifinda.
Portrait.
Homme politique congolais et professeur d'université, Barnabé Kikayabine Kiarubi a occupé jusqu'à l'investiture du nouveau chef de l'État de la RDC la fonction de conseiller diplomatique du président Joseph Kabila. Et c'est dans le cadre de la gestion des affaires courantes qu'il a accompagné le nouveau président Félix Tshisekedi la semaine dernière lors de sa première tournée régionale africaine. Licencié en langue et littérature anglaise de l'université de Lubumbashi, Barnabé Kikaya est retenu assistant à la faculté des lettres où il enseigne pendant un an avant d'aller poursuivre ses études de journalisme et de sciences politiques à la Boston University aux États-Unis. Après ses études, il se rend à Johannesburg en Afrique du Sud où il travaille comme rédacteur en chef de Canal Afrique, les services extérieurs de la radio-télévision sud-africaine. De 1995 à 1997, il dirige sa propre société de communication, l'Africaine de conseil en communication. Il regagne la République démocratique du Congo avec l'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila qui le nomme ambassadeur au Zimbabwe. Puis, Joseph Kabila le nomme ministre de l'Information avant d'occuper les fonctions de secrétaire particulier du président de la République. En 2006, il est élu à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Kasongo au Maniema. En 2009, le président Joseph Kabila le rappelle en diplomatie et le nomme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Grande-Bretagne. Barnabé Kikayabine Kiarubi est membre fondateur du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD.
Merci Michel Kifinda pour ce portrait. Monsieur l'ambassadeur Kikayabine Kiarubi, bonjour.
Bonjour.
Vous avez accompagné le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi au 32e sommet de l'Union africaine où il a été élu deuxième vice-président de cette organisation africaine. Qu'est-ce que cela représente pour la RDC?
Le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, m'a fait l'honneur de m'inclure dans l'équipe qui devait aller avec lui à Addis Abeba participer à ce 32e sommet de l'Union africaine. Qu'est-ce que cela représente pour la République démocratique du Congo? Comme vous le savez, nous sommes membres à part entière de notre organisation continentale et le président Félix Tshisekedi, en tant que panafricaniste avéré, ne pouvait pas manquer ce rendez-vous continental, malgré le fait que cela faisait seulement quelques semaines qu'il était à la tête de notre pays. Alors, il a pris avec lui certains membres de l'équipe sortante, dont moi-même, parce que c'est un sommet que nous avons préparé de longue date. Inutile de vous rappeler que j'étais conseiller diplomatique du président sortant, son Excellence Joseph Kabila, et que j'avais tous les dossiers en main. Et le président Tshisekedi, comme il a dit que on faisait une passation civilisée de pouvoir, nous a inclus dans cette équipe pour aller représenter le pays.
Oui, mais qu'est-ce que ça représente pour la RDC, le fait que le président, nouvellement élu, soit désigné? Est-ce que c'est une désignation ou bien une élection?
Ben, écoutez, c'est une élection. C'est une élection par acclamation. Ce qui se passe, c'est que les représentants permanents des pays africains à Addis Abeba se réunissent et choisissent un pays par région. Il y a 5 régions sur le continent africain. Il y a la présidence qui revient de droit à l'Afrique du Nord et vous le savez, c'est l'Égypte qui préside l'Union africaine cette année 2019. la première vice-présidente va à l'Afrique du Sud, à l'Afrique australe, et c'est l'Afrique du Sud qui va prendre le relais l'année prochaine, en 2020. Et ensuite, l'Afrique centrale a pris la deuxième vice-présidente et dirigera l'organisation continentale en 2021. Il y a aussi le Niger qui fait partie qui occupe au fait la quatrième vice-présidente. C'est une présidence rotative et un pays peut se désister, et comme dans la région il y a plusieurs pays, c'est la RDC qui a été choisie pour représenter l'Afrique centrale. C'est ainsi que lorsque cela a été présenté dans une session à huis clos, lorsqu'on a cité le nom de notre président, le président Félix Tshisekedi, les acclamations ont fusé de partout, parce que, bon, excusez-moi le terme, mais c'est le bébé qui vient d'arriver et qui, du jour au lendemain, se retrouve sur le piédestal.
Alors, certaines personnes pensent que cette désignation ou cette élection de Félix Tshisekedi, c'était une façon un peu pour l'Union africaine de se racheter après avoir émis des doutes sur les résultats des élections du 30 décembre.
On peut le voir ainsi, mais moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que l'Afrique du Sud, plutôt l'Afrique, l'Union africaine avait besoin de se racheter de quoi que ce soit. Mais toujours est-il que, vous vous souviendrez que quelques semaines auparavant, nous étions encore dans cette même salle à Addis Abeba où l'Union africaine avait pris la malencontreuse décision de demander à notre Cour constitutionnelle de surseoir la proclamation des résultats définitifs de nos élections. Et ce fait de donner des ordres à notre Cour constitutionnelle, nous l'avons très mal pris. Heureusement que la Cour constitutionnelle ne les a pas suivis, parce que notre Cour constitutionnelle, notre justice est indépendante et ne peut recevoir des ordres de qui que ce soit. Alors cela n'a pas joué et maintenant, bon, on peut comprendre que l'Union africaine voulait se racheter, mais ce n'était pas ça. C'est plutôt le fait que la RDC, qui est un grand pays, qui occupe une place prépondérante sur le continent, il était temps, surtout que cela faisait plusieurs années que nous n'avons pas occupé de fonctions, n'est-ce pas, à ce niveau-là, de décision au niveau continental.
Donc ce choix n'a pas été motivé par le fait que le Congo a eu un nouveau président, il fallait le légitimer devant ses pairs.
Non, pas du tout, mais ça aide dans ce sens que, vous savez, le débat post-électoral était encore frais dans la mémoire de beaucoup de gens, et le fait que l'organisation continentale plébiscite le président Félix Tshisekedi et, n'est-ce pas, le met en ordre utile pour diriger l'organisation continentale, met fin à ce débat, et je crois que nous, tout Congolais, doit se dire que ce débat est clos et que nous devons regarder de l'avant et travailler pour le développement de notre pays.
Mais entre-temps, il y a le candidat malheureux Martin Fayulu qui continue à revendiquer sa victoire auprès de l'Union africaine. Est-ce que cela ne risque pas de fragiliser la diplomatie congolaise?
Non, pas du tout. La diplomatie congolaise est vraiment solide pour défendre ce qui est connu de tous, c'est que le président Félix Tshisekedi a gagné les élections. Il a été proclamé par la Commission électorale nationale indépendante et ses résultats ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Le candidat malheureux à cette élection, en l'occurrence M. Fayulu, a eu le temps nécessaire, le temps constitutionnel pour présenter ses moyens de défense et prouver ce qu'il avance, disant que c'est lui qui a gagné les élections. Et que je sache, les juges de la Haute Cour n'ont pas été satisfaits par les moyens de défense qu'il a présentés, raison pour laquelle ils ont confirmé les résultats qui ont été proclamés par la Commission électorale nationale indépendante qui a proclamé M. Félix Tshisekedi président de la République démocratique du Congo.
Alors, lors de son discours à ce sommet, le président Félix Tshisekedi a dit plusieurs choses hein, dans le discours. Entre autres, il a dit que la RDC ne doit plus continuer d'être victime de ses ressources. Qu'est-ce qu'on sous-entend par là?
On sous-entend que, effectivement, les ressources de la République démocratique du Congo sont la cause principale de l'instabilité presque chronique que nous vivons dans ce pays. Maintenant que nous venons pour la première fois de notre histoire d'avoir une passation de pouvoir civilisé, qu'est-ce à dire? Vous savez que ce soit en 1960, il y a eu une cassure. En 1965, il y a eu une cassure. On oublie tout ce qui a été fait auparavant, nous commençons de nouvelles choses. En 1997, pareil, il y a eu une cassure avec versement et écoulement de sang des Congolais. Alors cette fois-ci, le président Félix Tshisekedi, qui vient de prendre le pouvoir au travers de l'urne, n'est-ce pas, des élections, a dit que nous devons mettre fin à cette malédiction. Raison pour laquelle il est en bonne intelligence avec le pouvoir passé pour qu'il y ait une continuité des affaires de l'État. Et c'est ma présence à Addis Abeba, c'est une preuve qu'il y a une continuité des affaires de l'État. Aussi longtemps que le président Tshisekedi n'aura pas nommé quelqu'un pour remplacer le conseiller principal au collège diplomatique du chef de l'État à la présidence de la République, je continue à rester là-bas, à travailler et à traiter les dossiers. Et je suis en contact avec le nouveau chef de l'État. Et je lui présente des dossiers. Il écoute. Et nous continuons à servir ce que nous avons comme dénominateur commun, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Demain, il lui plaira de nommer quelqu'un d'autre et à moi de faire une remise-reprise avec cette personne. Et à ce moment-là, ce passage civilisé se fera dans mon petit coin de conseiller diplomatique du chef de l'État. Et c'est comme ça à travers la République. Voilà comment un pays fonctionne. Et je pense que cette fois-ci, nous sommes dans le bon. Et ceci doit continuer.
Vous avez parlé tout à l'heure de continuité. Est-ce que ça veut dire que l'actuel pouvoir va continuer avec la même politique que l'ancien qui vient de partir?
Absolument pas. Vous avez écouté le discours d'investiture du président Félix Tshisekedi. Il y a quand même, il y a beaucoup, beaucoup de points dans lesquels il donne sa vision. Il donne sa vision du Congo qu'il veut, n'est-ce pas, voir dans 5 ans, dans 10 ans, si le peuple le reconduit aux élections qui auront lieu en 2023. Mais en tout cas, je ne pense pas que le président Félix Tshisekedi fera la politique du président Kabila. Moi, je suis bien placé pour le savoir. Dans les quelques échanges que j'ai eus avec le président Félix Tshisekedi concernant la diplomatie, il y a de grands changements qui vont arriver. Et il fera sa politique. Il a été élu sur base d'un programme qu'il a expliqué au peuple congolais pendant la campagne électorale, raison pour laquelle le peuple congolais l'a choisi lui et n'a pas choisi les autres candidats, que ce soit M. Chadari, que ce soit M. Fayoulou et les tant d'autres candidats qui étaient candidats à la présidence de la République. Il avait un programme, il a un discours et je crois que c'est ça, sa vision qu'il va mettre en place.
Toujours lors de ce 32e sommet, le président Félix Tshisekedi a évoqué aussi les questions sécuritaires. Il appelle toute l'Afrique à lutter contre les groupes armés qui menacent l'Afrique et plus particulièrement la RDC. Vous pensez que cet appel sera entendu?
Absolument, et j'ai eu la chance, n'est-ce pas, d'accompagner le président de la République dans quelques bilatérales qu'il a eues avec ses homologues chefs d'État.
Entre le président rwandais Kagame,
le président rwandais, le président ougandais Museveni, nos voisins, le président zambien Edgar Lungu. Dans ces bilatérales, le chef de l'État est revenu à plusieurs reprises sur cette problématique de l'insécurité aux frontières de la République démocratique du Congo. Vous l'avez dit au début de cet entretien que les richesses du Congo sont convoitées, sont l'objet de plusieurs convoitises. Alors, il a évoqué cette question et la menace qui est surtout à l'est de la République démocratique du Congo est devenue une menace asymétrique, terroriste, dirais-je. Et cela a été prouvé lorsque les installations, n'est-ce pas, les intérêts américains ici à Kinshasa ont été menacés par ces mêmes terroristes qui sévissent à l'est de notre pays. La communauté internationale s'est réveillée pour écouter finalement ce que nous leur avons dit depuis très longtemps. Alors, En parlant avec nos voisins qui sont à l'Est, que ce soit le président ougandais ou le président rwandais, le chef de l'État est revenu sur cela et ces chefs d'État-là ne peuvent pas ne pas écouter cela parce que les terroristes, s'ils s'implantent à l'Est de la République démocratique du Congo, c'est toute l'Afrique qui sera menacée. La menace ne va pas se limiter là. On a bien vu que si on regarde, si on monte un peu au-dessus de notre continent, on verra que ce soit les djihadistes de ACMI au Maghreb islamique, que ce soit les djihadistes de Boko Haram, cela touche plusieurs pays. Alors si les Chebabs qui sont à l'est de notre continent viennent prendre refuge dans le parc de la Garamba, parce que c'est ça qu'ils sont en train de viser, il n'y a pas que le Congo qui va souffrir, c'est toute la région qui sera touchée. Alors, raison pour laquelle, en bon visionnaire, le président Félix Tshisekedi a évoqué cette question, non seulement avec ses homologues présidents des pays à l'est de notre pays, mais également avec le secrétaire général des Nations Unies. Il a évoqué la question et le message, croyez-moi, a été bien entendu.
Donc on peut espérer qu'après cet entretien avec les chefs d'État des pays de l'Est, je vois le Rwanda et l'Ouganda, on peut espérer que ces pays vont finalement s'entendre sur la sécurité, la stabilité de la région des Grands Lacs.
J'ai cru comprendre que le président a dit à tous ces chefs d'État qu'il mettrait en place, n'est-ce pas, des commissions qui allaient examiner cette nouvelle donne. Parce que dans le temps, la guerre était conventionnelle. Maintenant, la guerre est asymétrique. Ce sont des groupes armés qui se cachent dans la forêt, qui sortent, qui viennent égorger, tuer des gens, semer la désolation dans la région de Beni, Bounia, Butembo, et se retirent dans la forêt. Donc ce n'est plus une guerre conventionnelle, c'est une guerre asymétrique. Et maintenant, le président Félix Tshisekedi a promis qu'il ferait en sorte que des Congolais et certains de nos voisins à l'Est, ainsi que la MONUSCO, qui est venu ici pour nous aider à combattre ces barbaries, puisse trouver les voies et moyens de mettre fin à cette barbarie une fois pour toutes.
Monsieur Barnabé Kikaya, vous êtes diplomate, chef du collège diplomatique au cabinet de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. On va parler un peu des sanctions européennes et américaines. Malgré la pression de la RDC, ces sanctions n'ont pas été levées. Est-ce un échec de la diplomatie congolaise?
Bon, je ne parlerai pas d'échec. Hein. Vous savez, lorsque des pays étrangers ou des organisations étrangères extracontinentales décident de sanctionner des autorités d'un pays qui n'a rien à voir avec ces pays-là, moi je dirais que plutôt que de parler d'un échec de la diplomatie congolaise, il faut parler plutôt de cette violation des règles élémentaires qui régissent les relations entre États. Comment est-ce que l'Union européenne peut se réveiller un matin et sanctionner des autorités d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne? À la limite, moi je dirais que c'est risible. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, lorsqu'ils ont sanctionné nos autorités, ils ont sanctionné un monsieur qui s'appelle Ngunjolo. Ngunjolo, c'est un seigneur de guerre dans la guerre entre les Pygmées et les Bantous. Ce monsieur n'a jamais vu le courant électrique, il n'a jamais mis ses pieds dans un avion. Mais l'Union européenne l'a sanctionné, n'est-ce pas, interdiction de voyager, gel de ses avoirs en Europe, et tous les Bataclan. Excusez-moi, ce monsieur, quels avoirs il a en Europe? Et d'ailleurs, même parmi les autorités congolaises qu'ils ont sanctionnées, c'est des gens qui n'ont même pas un vélo en Europe. Mais on les a sanctionnés, c'est des choses qui sont faites, n'est-ce pas, porter un coup, croit-il, à la politique congolaise. Et ce qu'il faut savoir également...
Est-ce que ça n'a pas porté un coup, monsieur l'ambassadeur?
Non, pas du tout, parce que les personnes qu'ils ont sanctionnées sont là et ne sont pas inquiétées et continuent à travailler, ceux qui continuent à travailler. Quel est le coup que ça porterait? Vous savez, nous ne sommes plus à l'époque où on s'est précipité pour voyager en Europe. C'est bien de visiter le monde, c'est vrai. Ça vous enrichit, ça vous ouvre les horizons. Mais si on ne veut pas de vous dans un pays donné, ben, tant mieux, il y en a d'autres, il y a d'autres pays. Il fut un temps où l'Europe était la destination rêvée des Africains. Maintenant, les gens peuvent aller ailleurs et trouver les mêmes facilités qu'on trouve en Europe. Les États-Unis, pareil.
Décision injuste.
Je trouve que c'était une décision vraiment injuste, dans ce sens que ces personnes qui ont été condamnées n'ont pas été entendues. Et ça, c'est une règle élémentaire. Avant de condamner quelqu'un, il faut l'entendre. Il faut l'entendre, quels que soient les griefs qui sont portés contre cette personne. Et cela n'a pas été le cas, et c'était l'essentiel de notre argumentaire. Ils ont sanctionné des gens pour des raisons purement politiques.
Et par réciprocité, la RDC a renvoyé le représentant de l'Union européenne en RDC.
Bon, cette question de l'expulsion du représentant de l'Union européenne, c'est une question, effectivement. Le ministre des Affaires étrangères, après consultation avec ses collègues du gouvernement, a agi par réciprocité. Cela est reconnu également par la Convention de Vienne, que la diplomatie, c'est une des règles sacro-saintes de la diplomatie, c'est la réciprocité. Alors, comme l'Union européenne a sanctionné nos dignitaires, nous avons poliment demandé à l'Union européenne de rappeler son ambassadeur.
Bon, les États-Unis ont aussi sanctionné certains dignitaires congolais.
Bon, les États-Unis ont sanctionné des dignitaires congolais. Ça, c'est des choses qui étaient discutées à l'époque au niveau du gouvernement pour voir quelles sont les mesures de réciprocité qu'on allait prendre. Mais il faut savoir que les deux dernières années, le gouvernement de la République démocratique du Congo était focalisé sur la question électorale, si bien qu'on n'a pas eu le temps, n'est-ce pas, de mûrir cette question des sanctions qui ont frappé certains de nos généraux et certains dignitaires de notre pays.
Après l'élection de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC, l'Union européenne demande le retour de son ambassadeur. Est-ce que vous pensez, monsieur l'ambassadeur Kikaya Bin Karoubi, qu'il faudrait améliorer les relations diplomatiques avec l'Union européenne et la Belgique?
Vous savez, les relations diplomatiques ne peuvent pas dépendre du sort d'un individu. Non, je suis d'accord avec vous qu'il faut à tout prix examiner les relations entre notre pays et l'Union européenne. L'Union européenne intervient ici dans plusieurs domaines, le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine des infrastructures, même la formation parfois de nos policiers et tout ça, ils interviennent. C'est une intervention qui est salutaire pour notre pays. Il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, maintenant, être, n'est-ce pas, à couteau tiré avec l'Union européenne ne profite à personne. Je suis d'accord qu'il faut à tout prix améliorer les relations entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. La question a été soulevée dans la bilatérale qu'a eu le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, et Madame Mogherini, qui est la haut-commissaire de l'Union européenne aux relations extérieures. Le président a dit clairement que il avait des relations personnelles avec M. Bartouvry, parce que c'est de lui qu'il s'agit, l'ancien ambassadeur de l'Union européenne ici à Kinshasa, et que lorsqu'il avait été expulsé, il avait fait un tweet. Mais il a bien précisé que ce tweet a été fait par un opposant, candidat à la présidence de la République. Aujourd'hui, le président a mis son costume de président de la République, donc la situation est différente. Mais il reste favorable au retour de M. Bartouvry, pourvu que, il a bien mis un bémol là-dessus, pourvu que cela n'énerve pas les règles diplomatiques. Telles que décrites dans la Convention de Vienne. La Convention de Vienne, c'est le document, n'est-ce pas, c'est la Bible des relations entre pays. Alors, si la Convention de Vienne ne trouve aucun inconvénient qu'un ambassadeur qui a été expulsé dans un pays puisse revenir, aucun problème. M. Bartouvry reviendra parce que c'est le vœu, le souhait du chef de l'État. Mais toujours est-il que nous, les experts en la matière, nous sommes en train d'étudier, d'évaluer, et nous allons, n'est-ce pas, faire des notes techniques que nous allons soumettre au chef de l'État, et ce sera à lui de prendre la dernière décision.
Monsieur l'ambassadeur Kikaya Bin Karoubi, vous êtes aussi cadre du FCC. Il y a les leaders de Ensemble Moïse Katumbi qui se voient toujours privés du passeport congolais en dépit de l'appel à la réconciliation de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui bloque?
Bon, écoutez, Monsieur Moïse Katumbi voyage. Il voyage à travers le monde. Moi, je ne sais pas quels sont les papiers qu'il a. s'il peut voyager comme ça, c'est qu'il possède devant lui des documents qui l'autorisent à voyager. Je crus le voir au dernier match que son équipe Tout-Puissant Mazembe a livré en Afrique du Nord. Bon, maintenant, pour ce qui est du passeport congolais, il en avait un. Tout ça, ce sont des problèmes qui doivent être étudiés, n'est-ce pas, et discutés.
Au nom de la réconciliation ?
Pourquoi pas ? Au nom de la réconciliation nationale, pourquoi pas ? Vous savez, il y a un nouveau pouvoir qui est en place. Je suis mal placé pour répondre à cette question, dans ce sens que il y a un nouveau pouvoir qui est en place, qui a promis, n'est-ce pas, au nom de la réconciliation nationale, comme vous le dites si bien, d'examiner toutes les questions concernant tous les Congolais. Le chef de l'État à Brazzaville et à Addis Abeba, d'ailleurs, je l'ai entendu interpeller un compatriote là-bas, il lui a dit « Qu'est-ce que vous faites ici? Rentrez au pays. » Il lui a dit cela. À Brazzaville, il a aussi lancé un appel à tous nos compatriotes qui vivent de l'autre côté du fleuve. Il leur a dit « Il faut à tout prix rentrer au pays. » Même les réfugiés qui ont fui les violences qui ont eu lieu à Yumbi. Je crois que le chef de l'État a pris une décision urgente pour faire que les réfugiés qui sont allés au Congo-Brazzaville puissent rentrer chez nous. Donc c'est un problème qui le tient à cœur. Les Congolais de l'étranger, le chef de l'État lui-même qui a vécu à l'étranger assez longtemps, il encourage tout le monde à rentrer. Alors c'est le même cas pour M. Moïse Katumbi. Je ne crois pas qu'il puisse faire exception.
Mais c'était quoi le problème avec l'ancien pouvoir ?
Bon, l'ancien pouvoir n'avait aucun problème non plus, hein, n'est-ce pas ? M. Moïse Katumbi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, était parti à l'étranger pour se faire soigner. Il était allé aux soins, il a eu tous les papiers nécessaires pour aller se faire soigner. Maintenant qu'il est guéri, il peut revenir au pays quand il veut. Donc il n'y a rien qui l'empêche de revenir.
Vous avez travaillé comme chef du collège diplomatique au cabinet de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Si aujourd'hui le président Félix vous demandait de travailler avec lui, vous serez d'accord ?
Je suis congolais, pur sang à 100% au service de mon pays. Et s'il plaît au chef de l'État de me proposer de travailler avec lui pour notre pays, écoutez, moi j'accepterai. Alors, avec grand plaisir, je vous disais au début de cet entretien que c'était un honneur pour moi que le chef de l'État me demande de l'accompagner à Addis Abeba. Et il en sera de même, il me fera un grand honneur s'il me demandait de poursuivre mon travail ou de servir mon pays ailleurs, sans aucun problème.
Comment vous répondez à toutes ces personnes qui estiment que la RDC n'a pas une forte diplomatie passive ?
Il se trompe.
On accuse toujours la RDC d'être faible devant les autres États.
Faux et archi-faux. Je donne juste un exemple. Nous étions candidats à la Commission internationale des droits de l'homme à New York. Ça, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies avec plus de 180 pays dans la salle. Il fallait élire les pays. Notre diplomatie, menée tambour battant par le ministre Léonard Chir-Okitundu. Je faisais partie de l'équipe. Nous avons fait le lobbying, nous avons mené campagne auprès de tous ces pays-là. Les États-Unis d'Amérique se sont opposés. Ils ont dit que le Congo ne doit pas entrer à la Commission internationale des droits de l'homme. Vous savez quoi ? Nous avons été élus par 155 pays sur 180. Voilà des choses qui parlent d'elles-mêmes, de la dynamique diplomatique de notre pays. Et ailleurs, vous savez, depuis que le même Léonard Chir-Okitundu est devenu ministre des Affaires étrangères, il avait décidé de construire un mur de défense diplomatique africain. Je l'ai accompagné dans ce périple africain. Nous avons visité nos 9 voisins, les pays de la région, les pays d'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, pour pouvoir contrecarrer les assauts que nous subissions, que ce soit de l'Union européenne, des États-Unis et des pays qui voulaient, n'est-ce pas, nous affaiblir. Et je crois que nous sommes sortis de là la tête haute, raison pour laquelle d'ailleurs ils ont pris des décisions iniques. De sanctionner des ministres et tout ce que vous voulez. Donc ça, c'était vraiment un baroud d'honneur pour eux que d'aller jusqu'à sanctionner des personnes qui sont en plein exercice de leur pouvoir. Lorsque vous sanctionnez un ministre de l'Intérieur qui est chargé de la sécurité du pays, qu'est-ce que vous attendez ? Alors c'est fort dommage parce que nous les avons poussés dans leur coin pour qu'ils prennent de telles décisions. C'est parce que notre diplomatie a été une diplomatie vraiment, je ne dirais pas agressive, mais en tout cas, une diplomatie active pour la défense des intérêts de la République démocratique du Congo. Et nous n'avons jamais lésiné pour défendre les intérêts de notre pays.
Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé dans la production. Michel Kifinda, Tina Salama, supervision technique Jean-Noël Mokondo, micro Kelim Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.